Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ce dimanche, nous avons rendez-vous avec notre revue préférée, la revue Esprit, qui a pour devise, rappelons-le, comprendre le monde qui vient. Nous sommes donc faits pour nous entendre dans ce magazine qui, vous le savez, interroge ceux qui pensent le monde. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes partenaires. Esprit qui consacre son dossier du mois d'octobre au livre « La vie paradoxale du livre », tel est son titre. Nous allons en parler avec Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue. Idée donc un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'appli RFI et via votre moteur de recherche préféré. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver pour parler du sujet du mois de la revue Esprit. J'aime beaucoup, je le dis à chaque fois quasiment, le slogan de la revue, la devise « Comprendre le monde qui vient ». Je trouve que ça vous va très bien. Et pourquoi avoir choisi le livre cette fois-ci ?
Alors, l'idée de parler des évolutions du livre, du monde de l'édition en France, nous est venue parce que il y avait un peu une double actualité, en fait. Celle de nouvelles grandes manœuvres de fusion-concentration dans le monde de l'édition, avec des maisons d'édition qui passent d'un grand groupe à un autre, des concentrations aussi qui doivent être examinées par la Commission européenne pour savoir s'il n'y a pas un monopole qui est en train de se constituer. Donc, il y avait ces grandes manœuvres industrielles, on pourrait dire, et la question qu'on avait envie de poser à partir de celle-ci, c'est si ces phénomènes de fusion-concentration risquaient de menacer la diversité éditoriale. Et puis on pensait à une autre actualité à peine plus lointaine, qui était ce moment du confinement, du premier confinement, lorsque la pandémie de Covid a éclaté. Et que en 2020 donc et que il avait été décidé assez rapidement que les librairies pouvaient rester ouvertes, que les librairies étaient des commerces de biens essentiels et qu'à ce titre elles avaient le droit à une exception. Et donc on se demandait ce qu'il restait quelques années plus tard de cette idée que le livre était bien un produit marchand, mais un produit pas tout à fait comme les autres, un produit pas uniquement marchand et que à ce titre, il demandait une attention particulière des pouvoirs publics. Donc c'était un peu ces deux actualités qu'on souhaitait observer et croiser à l'invitation de François Gèze, qui est un auteur de la revue, ami de la revue aussi, qui est un homme qui a beaucoup fait pour l'édition en France, qui a été à la tête de beaucoup de projets innovants pour le secteur de l'édition, et c'est lui qui nous avait soufflé l'idée de ce numéro. C'est un numéro aussi en hommage à son travail d'éditeur.
Alors nous allons lui rendre hommage, Anne-Lorraine, et puisque nous parlons du livre, évoquons la mémoire également de Bernard Pivot, le journaliste qui a défendu le livre à la télévision et qui nous a quittés cette année. Nous l'avions reçu dans ce magazine, Idée, le 27 avril 2017, pour être précis. Et nous avions évoqué la glorieuse époque de son émission phare apostrophe, à commencer par son indicatif. Rachmaninov, concerto numéro 1 pour piano. Ça, alors là, en l'écoutant pendant ces quelques secondes, oui, c'est ça. Ouais. Pendant que vous l'écoutiez, vous étiez encore, vous aviez de l'émotion. L'impression.
Oui, bien sûr, parce que c'est extraordinaire quand même. Il est passé 724 fois.
Entre 1975 et 1990, oui, 724 numéros.
Oui, 724 numéros. Et puis après, l'émission a fait vendre des milliers et des milliers de. Et de temps en temps, sur les radios où on passe de la musique classique, chaque fois que le concerto numéro 1, on rappelle que c'était la musique qui introduisait apostrophe.
Reconnaissance suprême. Et vous racontez dans ce livre, Bernard Pivot, les circonstances de la création. Pourquoi le apostrophe s'est retrouvé le vendredi soir à l'antenne ?
Par hasard.
Alors c'est incroyable.
Oui, non, mais ce qui était drôle, c'est que je me rappelle, la presse disait Oh, ça a été formidable parce que quelle belle invention d'avoir mis une émission littéraire à 21h30, précédée d'une émission d'une fiction et ensuite avec le ciné-club présenté par le regretté Claude Jean-Philippe.
Qui venait à la fin de votre émission préparer, présenter le film.
Ça, c'est vraiment une intelligence. Et d'ailleurs, cette programmation est restée pendant 15 ans. Elle était exemplaire. Or, c'est le hasard qui a décidé ça. Parce que quand Marcel Julien a repris...
Grand patron de télévision.
L'éclatement de l'ORTF, donc il a recréé la seconde chaîne, il l'a vraiment recréé.
Antenne 2.
Alors, personne ne voulait venir le vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait au théâtre ce soir sur la 1 et il y avait un film sur la 3. Donc, vraiment une soirée pourrie pour la 2. Et donc, tous les barons de la chaîne, genre Jameau, avaient dit « Ah non, 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 pas le vendredi ». Et comme moi, j'étais un jeune homme, j'arrivais, j'étais le béjaune de la programmation, on m'a dit « Bon, bah, écoute, mon vieux, tu seras là le vendredi ». Et c'est passé comme ça. Et ça a été une chance inouïe. Oui, parce que 3 semaines après, le film de la 3 a sauté, parce que tellement il y a eu de protestations des gens du cinéma pour que ce film faisait trop de concurrence à la programmation dans les salles. Et du coup, je me suis retrouvé avec une programmation qui était beaucoup moins virulente que celle que j'avais au départ.
Bernard Pivot, le 27 avril 2017, dans ce magazine Idée, Anne-Lorraine Bujon, il parlait alors d'un livre qu'il venait d'écrire sur la mémoire, sur ce qui restait de la mémoire avec l'âge. Il a vraiment beaucoup fait pour le livre, Bernard Pivot.
Oui, on entend dans cet extrait comme il avait le verbe haut, le choix des mots, béjaune, virulent. C'est vrai, enfin voilà, moi j'ai eu beaucoup de vendredis soir comme ça, apostrophe, puis le ciné-club, donc je m'en souviens bien. Et voilà, c'était une émission très regardée, très suivie, très aimée. Et je pense que Bernard Pivot donnait l'image à la fois d'un homme d'une très grande culture, d'une très grande érudition, mais il avait aussi ce côté simplement très animé, très jovial. Et donc il faisait du livre un objet aussi de plaisir, je crois.
C'était la grande époque du livre. Finalement, 75-90, si on reprend les dates clés de diffusion d'apostrophe, et l'époque où le livre était assez puissant, tout puissant même.
Oui, alors je pense que c'est évidemment une très vieille tradition en France, cet amour du livre, le prestige du livre aussi. Mais c'est par exemple l'époque de la loi Langue, dont il est pas mal question
dans notre
numéro, parce qu'elle a joué un rôle considérable dans la structuration des politiques du livre. Donc c'est 81, cette fameuse loi Langue sur le prix unique du livre qui... On revient à cette idée que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui dit oui, le livre est un bien marchand, mais pas un bien comme les autres, donc pas un bien sur lequel, par exemple, on pourrait faire du discount en écoulant certains titres à bas prix, ce qui fait que notamment les petites librairies indépendantes ne s'y retrouveraient plus du tout. Donc on aurait basculé dans une logique beaucoup plus, celle de la grande distribution qui a prévalu dans d'autres pays, en fait, où on a vu disparaître les petites librairies indépendantes. Moi qui vais souvent aux États-Unis, c'est vrai qu'elles sont très rares. On voit des grandes chaînes comme Barnes & Noble, mais c'est pas du tout la même chose que la librairie de quartier.
Pourquoi le titre du dossier que vous avez choisi s'intitule « La vie paradoxale du livre » ? Où est le paradoxe ?
Alors, je crois que dans le numéro, on parle non pas d'un seul paradoxe, mais de plusieurs paradoxes. Et ça nous est apparu au fur et à mesure qu'on réunissait les articles et que chacun de ces articles pointait un différent paradoxe. Donc, on est parti d'abord du titre que François Gèze avait choisi de donner au livre qui est paru à titre posthume, donc La double nature du livre, qui est paru aux Belles Lettres à l'automne 2023, je pense, et qui réunit en fait différents articles que François Gèze avait consacrés au livre et à l'édition dans les 20 ou 30 dernières années, dont certains articles qui étaient parus dans Esprit. Et puis François Gèze est décédé au mois d'août 2023, donc cette collection a paru à titre posthume, mais c'est bien avec lui qu'on avait conçu ce projet de numéro. Et donc on a repris cette idée de double nature du livre, donc à la fois œuvre de l'esprit, œuvre de création, et à ce titre qui relève donc de la propriété immatérielle et du droit d'auteur, par exemple, et aussi bien marchand qui dépend d'une logique commerciale bien pensée d'un certain nombre d'éditeurs qui comprennent les rouages du marché. Cette idée de double nature du livre, il la tenait lui-même de Kant, me semble-t-il. Et c'est un des premiers paradoxes, mais il y en a d'autres, comme la logique industrielle et la logique artisanale, comme la logique de l'ancrage local et la dématérialisation croissante, notamment du travail de prescription du livre, comme les logiques de fusion-concentration dont j'ai parlé tout à l'heure,
mais sur lesquelles on va revenir,
mais aussi la diversité des maisons d'édition. Ouais. Donc c'était une série de paradoxes. Et bien sûr, l'idée que le livre est face à des défis considérables aujourd'hui dans notre monde numérique, mais en même temps, il fait preuve de résilience. Et ce qui est au cœur de la fabrication d'un livre, sans doute, perdure.
Alors, rendons hommage à François Gèze, donc en l'écoutant également, à Lorraine Bujon. Écoutez ce qu'il disait en 2013 sur la double nature du livre, précisément. Alors, rappelons que François Gèze était directeur de collection dans la grande maison d'édition Maspero, et quand il est devenu le PDG, le directeur d'une nouvelle maison d'édition qui a pris la suite et qui s'appelle les éditions La Découverte. Écoutons François Gèze.
Dans le monde du livre, de l'édition, de la librairie, la grande question qui revient aujourd'hui, c'est celle, la vieille question de la double nature du livre, à la fois objet marchand, objet de culture. Malgré les concentrations, depuis plus de deux siècles, finalement, cette double nature a fonctionné. C'est-à-dire, les libraires sont des commerçants, mais ils savent que ce qu'ils commercialisent, c'est des objets de culture, et ce ne sont pas donc des produits comme les autres. Ça fonctionnait. Et aujourd'hui, les menaces deviennent très sérieuses. La première menace, la plus grande, c'est que qui devient aujourd'hui le plus grand commerçant de livres, c'est Amazon, pour ne pas le nommer, ou des grands revendeurs en ligne, comme on dit aujourd'hui, qui occupent plus de 10% du marché en France, 25% aux États-Unis, et pour certains éditeurs comme nous, comme La Découverte, plus de 20%. Et ça, ça change tout, parce que ces gens-là sont des marchands purs et durs. Et donc, ce poids considérable de ces vendeurs en ligne déstabilise très profondément le tissu de la librairie et donc menace la création, menace la diversité qui est assurée justement par le réseau de librairies. Le menace d'autant plus qu'il y a un second facteur qui vient ébranler, fragiliser tout ce dispositif qui fonctionnait bien depuis si longtemps, c'est la baisse de la lecture, la baisse de la grande lecture. Le nombre de grands lecteurs, ceux qui livrent plus de 25 livres par an, était de 22% des Français de plus de 15 ans en 73, 11% l'année dernière ou il y a deux ans. C'était divisé par deux en l'espace de moins d'un demi-siècle. Et ça, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il y a toujours des livres qui se vendent, bien entendu, mais des best-sellers, des choses comme ça, et les livres un peu difficiles, pointus, les livres de création, en fiction, en essai, ceux-là qui sont les plus difficiles, voient leur marché se réduire. Et pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la concurrence d'Internet, il y a beaucoup de choses qui jouent dans ce sens-là, mais c'est même avant Internet que ça avait commencé. Et moi, mon explication, c'est le livre a perdu sa place, a très largement perdu sa place à l'université, plutôt comme outil de support, de formation et de culture. Et on le voit bien, toutes nos enquêtes le montrent, il y a moins de budget, il y a moins de pratiques d'apprendre à lire des livres et à les utiliser pour apprendre. Donc du coup, on est en train de nous fabriquer des jeunes, et qui le resteront pendant toute leur vie, qui seront déculturés, qui ne seront cultivés que dans un domaine extrêmement étroit, petit, pour lequel ils n'ont même pas besoin de livres. Et ça, cette conjonction de ces deux menaces est tout à fait préoccupante et, à mon avis, appelle des mesures fortes qu'il faudra prendre, on l'espère, très bientôt.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de notre revue partenaire Esprit, qui consacre son dossier du mois d'octobre au livre « La vie paradoxale du livre ». Nous venons d'écouter François Jazz. Anne-Lorraine Bujon, c'était en 2013. La tendance, hélas, a continué, avec en plus des livres qui sont devenus virtuels.
Oui, alors je trouve cet extrait très intéressant. J'ai eu la chance de connaître François Jazz, et en fait, cet homme connaissait extrêmement bien le monde de l'édition. Et il avait une vision très complète de ce qu'on peut appeler les acteurs de la chaîne du livre. Donc, en commençant par l'auteur et jusqu'au lecteur, il y a un certain nombre d'intermédiaires dans cette chaîne du livre. Et c'est une économie assez complexe. Et François Jazz, je pense, à la fois aimait passionnément les livres, mais s'intéressait beaucoup aussi à ce qu'il appelait les tuyaux, l'infrastructure. C'est-à-dire comment est-ce que réellement on fait advenir un livre depuis l'auteur jusqu'au moment où on le met entre les mains d'un lecteur. Et donc, à côté de son parcours d'éditeur que vous avez rappelé, il a aussi été très actif dans deux autres domaines, donc le domaine de l'interprofession, le Syndicat national du livre, enfin un certain nombre d'organisations professionnelles, et pour lesquelles il a beaucoup fait, et par exemple créé, il a lutté contre le photocopiage. Et donc, je me demandais de quand datait cet extrait de 2013, où il s'inquiète du fait qu'on ne met plus des livres entre les mains des étudiants, on met beaucoup des photocopies ou des les fameux polycopiers, donc ça ne doit plus exister, mais nous on a fait nos études avec des polys. Et bien François Jazz, qui avait vu se développer cette pratique, a beaucoup œuvré pour la création du Centre français de la copie, qui maintenant tient compte des photocopies qui sont faites et verse des redevances aux éditeurs. Je le sais en tant qu'éditrice moi-même, on perçoit une petite redevance chaque année qui correspond à la part d'articles d'Esprit qui ont été photocopiés. Et ça s'est fait un peu grâce à François Jazz et d'autres, hein, mais parce qu'il s'intéressait justement au tuyau, à l'infrastructure du livre, qui lui semblait tout à fait digne d'intérêt. Donc il avait beau s'intéresser aux œuvres de l'Esprit, il s'intéressait aussi à ces questions matérielles qui les rendent accessibles. Et puis, il s'est intéressé très tôt au numérique. Et il a vu venir, en fait, cette vague de la numérisation. Et il l'a vu venir depuis les États-Unis. Et bien avant qu'on parle du pouvoir des GAFAM, etc. Et donc, il a aussi été très actif dans ce domaine pour essayer de s'assurer que, notamment, la littérature en langue française reste un acteur dans le paysage et ne soit pas emporté en fait par ce qu'on voit maintenant comme la vague de la plateformisation de l'économie des médias et aussi du livre. Donc il était à la fois sur ses gardes par rapport au pouvoir qui était en train d'acquérir ces mastodontes comme Google, et en même temps très au fait des pratiques et de comment ça fonctionnait. Et c'est ce qui l'a conduit notamment à créer la plateforme Cairn, qui est donc une plateforme qui agrège les contenus de 130 revues de sciences économiques et sciences humaines et sociales, dont Esprit, en langue française, pour faire vivre en fait le travail des revues en langue française, plateforme numérique.
L'édition de livres est une aventure, ce qui la rend passionnante pour celles et ceux qui la pratiquent, écrit-il dans son livre, dont vous publiez un extrait donc dans ce dossier consacré au livre. Et précisément, écoutons une dernière fois François Jazz parler de cette passionnante plateforme qui s'appelle Cairn.info. Et il, toujours en 2013, sur le site de la librairie Mola, la grande librairie bordelaise Mola, il parlait de l'évolution de l'édition depuis 1983, date à laquelle il a créé les éditions La Découverte.
Ces 30 ans ont été aussi traversés par des mutations du monde de l'édition et de la librairie absolument considérables. Le paysage de la diffusion du livre aujourd'hui et celui qu'il était en 83 n'est plus du tout le même. Et parmi ces mutations, il y en a une qui est majeure, c'est évidemment l'éruption du numérique, le fameux numérique, qui en vérité ancienne. Mais on ne le voyait pas auparavant dans le monde du livre parce que c'était cantonné au droit, aux sciences exactes, aux encyclopédies à partir des années 90. Et pas à la littérature générale, pas aux romans, pas aux essais, etc. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai pu constater, connaissant mieux et découvrant cet univers-là, que ça pouvait être, pour les sciences humaines et sociales, pour le savoir en général, un outil absolument remarquable pour améliorer, élargir la diffusion de la connaissance, à un moment même où le livre imprimé classique, notamment à l'université, était en train de perdre la place qu'il occupait traditionnellement. Donc avec d'autres éditeurs, on a créé par exemple en 2005 un portail internet qui s'appelle Kern.info, qui est un portail de revues de sciences humaines, donc des revues essentiellement académiques, comme on dit, mais aussi des revues générales. Nous avons rejoint par exemple tout récemment Esprit, Le Débat, etc., qui est devenu le principal site de diffusion des revues de sciences humaines françaises au niveau mondial, parce que plus de 700 établissements universitaires dans le monde y sont abonnés, dont la moitié à l'étranger. Et ça a donné, du coup, aux revues de sciences humaines qui avaient tendance à disparaître, tout simplement, y compris dans les librairies, parce qu'il y avait de moins en moins d'acheteurs, une diffusion nouvelle absolument stupéfiante, quoi. Et qu'on voit bien, les chiffres sont tout à fait remarquables. Et ça a changé complètement, disons, la première forme de diffusion de ce savoir, le tout frais, qui est celui produit dans les revues, a trouvé une nouvelle audience.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, le livre est au cœur de notre conversation ce mois-ci avec vous, Anne-Lorraine. Le numérique a été un outil formidable de partage du savoir et je pense notamment à nos auditeurs qui nous écoutent loin de la France.
Oui,
et qui veulent accéder à la culture.
Cette plateforme Kern.info dont parle François Gèze, elle continue de se développer extrêmement bien. Elle a donc accompagné un certain nombre de revues comme les nôtres dans leur travail de numérisation. Alors bon, dans le cas d'Esprit, on a maintenant un site internet à nous sur lequel les lecteurs peuvent retrouver tout ce qui est publié dans Esprit. Mais pour des revues plus petites qui disposent de moins de moyens, la plateforme Kern joue un rôle absolument indispensable et aujourd'hui elle continue de se développer et permet également la traduction d'un certain nombre d'articles issus de revues de sciences humaines et sociales en langue française. Quelques-uns sont traduits en anglais et puis en espagnol. Et les métadonnées sont traduites et dans notre univers, les métadonnées, voilà, ça veut dire que du coup ces revues sont référencées, que les gens savent qu'elles existent aux quatre coins du monde. Et c'est donc effectivement un outil formidable, mais il a d'abord été vu comme une menace. On a d'abord pensé, au moment de l'irruption du numérique, que le numérique allait tuer le livre. On nous a dit, c'en est fini du livre, et puis il n'y aura plus que des liseuses, et puis il n'y aura plus que des livres numériques. En réalité, ce qui se passe, c'est que le livre numérique s'est développé, mais il coexiste avec le livre en papier, plus qu'il ne l'a cannibalisé. Et de ce point de vue-là, à condition d'être vigilant, à condition de s'armer, parce qu'il y a des défis réels, mais le numérique peut être une chance. Et c'est très intéressant dans ces extraits de François Gèze. Décidément, on parle beaucoup de lui, mais c'est parce que c'est
quelqu'un... Il le mérite, ô combien ?
Voilà, il avait vraiment compris énormément de choses sur cette double nature du livre et beaucoup accompagné ces mutations dont il parle. Mais vous voyez, quand on a travaillé avec lui à ce dossier, La vie paradoxale du livre, qu'on a fini par réaliser sans lui, puisqu'il avait disparu, mais j'ai été très frappée du fait qu'il était très lucide sur les transformations extrêmement rapides et radicales du secteur, sous l'effet notamment du numérique, mais aussi de ce qui changeait à l'université, comme il l'expliquait tout à l'heure. Mais il était lucide, mais il restait très optimiste. Et une chose qu'il était venu nous dire, et dont il est question aussi dans notre numéro, c'est qu'il constatait une reprise de la lecture chez une certaine catégorie dans la population de gens jeunes, extrêmement motivés, notamment sur les questions d'écologie, mais aussi sur les questions d'égalité entre les sexes. Et donc, il disait que sur ces sujets, qui sont éminemment des sujets de sciences humaines et sociales, il voyait vraiment un renouveau du livre qui était très perceptible, qu'à la croisée, en fait, de ses intérêts scientifiques et militants, on pourrait dire, il y avait un nouveau boom, notamment des essais en sciences humaines et sociales, et beaucoup d'essais comme ceux que publient les éditions La Découverte, justement. Et il nous avait incité à aller poser cette question aux libraires. Et c'est une des choses que nous avons faites en préparant ce dossier, d'aller interroger les libraires sur ce qu'ils voyaient des pratiques de lecture, notamment de la jeune génération.
Et donc,
il en ressort que, en effet, sur les essais de sciences humaines et sociales, sur, par exemple, des questions d'écologie ou de genre, il y a bien une reprise de la lecture et une vraie vitalité du secteur de l'édition. Et puis, pour des lecteurs plus jeunes encore, il y a aussi eu cette explosion littéralement du manga, donc autre type de livre venu du Japon, mais qui est aujourd'hui, et de très loin, le livre que pratique le plus les jeunes Français. Et puis la bande dessinée, oui, et le roman graphique, qui sont vraiment des secteurs en plein développement.
Oui, parce que Anne-Lorraine, dans la vie paradoxale du livre, il y a ceci. Il y a le numérique, vous le disiez, mais cela n'empêche pas la diffusion des livres. En 2021, donc un an après les confinements du Covid, 486 millions de livres se sont vendus en France. En 2022, donc un an après, le chiffre était redescendu à 448 millions de livres. C'est un chiffre impressionnant.
Ah oui, l'année du Covid a été une année mirobolante pour les libraires, et aussi une année très très rassurante, dans le sens où dans un monde en pleine confusion, où les gens manquent de repères, le livre est apparu comme une valeur refuge. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les Français ont acheté beaucoup de livres dans ces années-là et au moment du confinement.
J'espère qu'ils les ont lus.
Ça, on ne sait pas. Mais à côté de cela, on a aussi vu, par exemple, fleurir les ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture conduits parfois à distance, grâce donc aux outils de visioconférence. On a également vu un certain nombre de personnes décider de changer de vie pour ouvrir des librairies, qui, à la faveur du Covid et de la rupture que ça a été dans la vie de nombre d'entre nous, ont décidé de s'installer à leur compte, avec parfois un peu de désillusion, hein, au bout, parce que c'est difficile de joindre les deux bouts comme libraire. Et enfin, les librairies, à ce moment-là, se sont mises aussi un peu en accéléré au click and collect, par exemple, qu'un certain nombre d'auditeurs pratiquent sans doute. Et justement...
Il faut rappeler ce que c'est que le click
and collect. Le click and collect, donc, qui vous permet de commander un livre en ligne et d'aller le chercher ensuite dans votre librairie de quartier, et qui était en fait une réponse au rouleau compresseur d'Amazon, dont on a pensé qu'il allait dévorer tout cru les libraires, parce que voilà, avec des délais de livraison impossibles à imiter, et d'autant que Amazon ne facture pas les frais de port, donc il y avait aussi un peu de concurrence déloyale de ce côté-là, qui a pu effrayer beaucoup de libraires, mais je crois qu'à la faveur du Covid, il y a eu un effort collectif considérable pour s'adapter en fait à nos nouveaux usages de consommation numérique, tout en essayant de préserver ce qui fait la saveur donc, et du livre, la diversité éditoriale et de la petite librairie de quartier dans laquelle il faudrait continuer d'aller juste flâner et pas simplement aller choisir, aller récupérer un livre qu'on avait commandé en ligne.
Chapin. Pop. Blanc. Oui. Je sors pas assez, je reste enfermé. J'ai les chaussons dans les doigts de pied. Je devrais sortir, voir des poteaux et manger des paupiètes de veau. Et pas rester à lire des livres comme un salaud. Les livres, moi, ça me colle au fauteuil, me fait oublier le réel et l'irréel et le jour des poubelles. Le truc te prend, te lâche plus. La journée passe et puis voilà. Tu n'as rien fait, enfin t'as lu. C'est pas rien fait. T'es-tu déjà retrouvé à chialer, mouiller les pages d'un bouquin? Allez, bien. Relire la fin deux ou trois fois, essayer de comprendre pourquoi c'est toujours aussi triste et beau à chaque fois. Quand le mec il meurt, et puis toute sa famille aussi, dans d'injustes souffrances, et puis des cris. On peut déjà palper la peur, rien qu'en lisant le résumé de ses soucis dans la librairie, et c'est gratuit. Pas besoin d'argent pour lire tout le temps, si t'es fauché, on va au marché. Entre le saladier et le poissonnier, des bouquiniers qui ont des merveilles de beauté à trop fourguer.
Idée.
San Severino, la valse du blues, du livre, une certaine conception, vous l'avez compris, de la lecture et du livre. Suite de ce magazine, en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, soulignons un autre paradoxe parmi d'autres. Dans cette vie paradoxale du livre, il y a à la fois ce phénomène de concentration de grands groupes que souligne Françoise Benhamou dans son dossier, mais le site Electre, et c'est Françoise Benhamou qui nous le rappelle, dénombre 4500 éditeurs en France aujourd'hui, c'est-à-dire qui publient plus d'un livre par an. Voilà, un sacré paradoxe.
Voilà, c'est la coexistence entre ce que j'appelais des logiques industrielles tout à l'heure et des logiques artisanales. Il y a bien sûr un certain nombre de très grandes maisons d'édition dont les noms sont bien connus, Gallimard, Fayard, Hachette, Flammarion. Ces grandes maisons d'édition sont de surcroît regroupées au sein de groupes géants, donc Lagardère qui est devenue Hachette. Bon, et aujourd'hui, donc, Françoise Benhamou dit finalement il y a deux géants, deux groupes un peu plus petits, et puis ces 1500 éditeurs indépendants. Donc il y a vraiment des poids lourds dans l'édition, mais jusqu'ici, ça n'a pas empêché que continuent de survivre des éditeurs beaucoup plus petits, voire que continuent de se créer des maisons d'édition beaucoup plus petites. Et ces dernières années, on a effectivement vu un certain nombre de maisons d'édition se créer à la Revue Esprit. On a par exemple des liens avec les éditions Premier Parallèle, qui publient des essais tout à fait intéressants.
Nous connaissons bien dans cette émission. Hein.
Voilà, et parfois traduit aussi d'autres langues européennes, ce qui est intéressant. Ils ont beaucoup contribué à faire connaître des auteurs allemands, bulgares ou autres, donc des essais. Et puis les éditions Le Bruit du Monde que nous avons interrogées, donc, qui se sont ouvertes à Marseille il y a quelques années et qui publient là pour le coup de la fiction, mais y compris donc de la fiction traduite là aussi de langues étrangères. Donc ça existe, l'édition indépendante, mais dans les défis qu'ils évoquent, les uns et les autres, il y a le défi de la surproduction, parce qu'en fait...
Oui, alors j'allais poser la question, c'est un des thèmes, quand on parle du livre aujourd'hui, de réflexion et un paradoxe qui perdure. Chaque année, on dit qu'il y a trop de livres, mais chaque année, il y en a toujours plus.
Oui, il se produit toujours plus de livres. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'en vend un certain nombre aussi avec des années mirobolantes et d'autres qui le sont moins.
Et il est dit que les Français, pour ne parler que d'eux, lisent moins.
Voilà, lisent de moins en moins. Donc là, effectivement, on imagine qu'il y a un problème. Et ce qu'on constate aussi, en fait, c'est que ce sont quelques titres qui ont tendance à dominer le marché. Donc plusieurs de nos auteurs parlent du phénomène de best-sellerisation. Donc il y a à la fois surproduction et best-sellerisation.
Accentuée par maintenant la publicité pour le livre dans les médias audiovisuels.
Enfin. Voilà, la publicité en ligne. Et donc tout ça se concentre sur un petit nombre de titres qui font des ventes absolument records, tandis que d'autres livres n'ont pas leur chance. Et pourtant, dans les politiques publiques du livre en France, on a beaucoup fait justement pour que des petits livres moins connus puissent trouver leurs lecteurs, et notamment en fait avec ce système de l'office qui permet aux libraires de garder les livres un certain temps et de les retourner s'ils n'ont pas été vendus, et également de régler leurs factures en fait avec des délais qui sont anormalement longs par rapport à d'autres activités commerciales, mais parce que on a pris conscience du fait que un livre prendra peut-être un mois, deux mois, trois mois à se vendre, qu'il faut qu'il puisse rester sur la table des libraires. Mais quand il s'en produit autant, quand il paraît autant de livres, c'est un vrai défi pour les libraires. On voit bien, par exemple, au moment des fêtes, ils reçoivent des cartons et des cartons et des cartons, mais ils ne savent absolument plus où les mettre.
Alors, il y a d'autres phénomènes qui sont marginaux, mais qui existent. L'auto-édition qui se développe quand même un peu. L'impression de livres à la demande également. Et puis, il y a dans ce secteur, comme dans tellement d'autres, l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Intelligence artificielle qui finalement pose la question très sensible de l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur et à quel titre est-ce qu'il doit être protégé? Comment est-ce qu'on doit protéger ses droits? Et François Gèze rappelle le rôle central en fait qu'a toujours joué le droit d'auteur dans la vie du livre et de l'édition. Avec l'intelligence artificielle, effectivement, certains craignent la disparition de l'auteur, donc il y a déjà eu quelques expériences de livres qui auraient été écrits par des intelligences artificielles. Peut-être que je suis trop optimiste quand je pense que le monde de l'édition et le livre finiront par apprivoiser aussi cette nouveauté technologique. C'est difficile de ne pas se souvenir que dans les années 2000, justement avec l'irruption de la numérisation de tout, on nous avait prédit la fin du livre. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur la fin de l'auteur. Mais ce que montre, je crois, ce numéro, c'est que, et les différents auteurs que nous avons interrogés, c'est que le livre est doué d'une formidable résilience. Quelque chose dans le livre résiste.
Parce que c'est un objet, c'est quelque chose qu'on emmène avec soi et qui a plus de charme qu'une tablette.
Et vous voyez, voilà, on est de nouveau dans le paradoxe. C'est-à-dire que c'est immatériel, ce sont les idées de quelqu'un, c'est de la fiction, ça nous permet d'être ailleurs, de vivre autrement, de vivre mille vies, et en même temps, c'est un objet matériel qui s'achète, qui se vend, qui se fabrique. Et au cœur de tout cela, il y a en fait la relation entre un éditeur et un auteur. C'est à ce carrefour-là que naît le livre, et puis à l'autre bout de la chaîne, la rencontre avec le lecteur, bien sûr.
Suite de ce numéro d'idées consacré au livre avec Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, qui consacre son dossier d'octobre au livre avec un dossier qui s'intitule « La vie paradoxale du livre ». Anne-Lorraine, vous demandiez qu'est-ce qu'un auteur Et bien moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'un éditeur? Et je vous propose, pour l'illustrer cette question, la réponse d'un auteur et d'un éditeur, Olivier Bétourné, qui réagit à une phrase célèbre de Gaston Gallimard, le père fondateur des éditions du même nom, qui disait qu'un éditeur est finalement quelqu'un qui publie un livre qui ne se vendra pas.
Écoutez, pour moi, un éditeur et un bon éditeur est d'abord quelqu'un qui lit. C'est quelqu'un qui lit, et disant ça, je crois que j'élimine probablement 50% des gens qui portent le titre d'éditeur, c'est-à-dire le label d'éditeur, parce que les choses ont évolué depuis Gaston, les structures d'édition se sont concentrées, la distribution a pris le pas souvent sur l'initiative éditoriale, la financiarisation de l'économie de l'édition est à l'œuvre elle aussi, tant et si bien qu'à la tête des structures, vous avez autant et peut-être plus de managers que d'éditeurs, que de lecteurs proprement dit. Autrement dit, un éditeur, à mes yeux, c'est quelqu'un qui lit, d'abord. Ensuite, c'est quelqu'un qui porte un jugement sur ce qu'il lit. Et puis, c'est quelqu'un qui est susceptible de faire partager ses enthousiasmes, une fois qu'il a pris la décision de publier, à ses équipes, et puis aux libraires, et puis au public. C'est donc un travail assez complexe qui part d'un manuscrit physique et qui aboutit à un livre dans la poche d'un acheteur. Et le bon éditeur est celui qui réussit ce coup-là. Et ce n'est pas facile.
Olivier Bétourné, au micro de La Grande Table, c'était en 2020. Il vient de faire votre portrait, en quelque sorte.
Alors oui, ben nous n'éditons pas des livres, nous éditons une revue, mais je vois, oui, c'est quelqu'un qui lit, donc
en effet,
je crois qu'il faut lire beaucoup et en retirer un certain plaisir. Quelqu'un qui se risque à faire un jugement, c'est bon, ça n'est pas bon, c'est publiable, ça n'est pas publiable, c'est retravaillable, c'est pas retravaillable. Donc c'est vrai
illisible.
Toutes ces questions pour un éditeur, et qui sont souvent des questions, alors ça dépend des maisons, ça dépend des revues, mais qui sont souvent des questions qu'il faut se poser à plusieurs quand même. Il faut se sentir capable d'émettre un jugement, mais il faut parfois le tester face au jugement d'une autre personne.
C'est le cas chez vous, hein,
ou
d'évidence.
Deux autres personnes. Oui. Et puis l'enthousiasme, effectivement, et l'envie de partager. C'est effectivement un travail éminemment relationnel qui commence par la relation entre l'auteur et son éditeur. Et puis il y a l'éditeur et ses équipes, comme le dit Olivier Bétourné ici. Et enfin, l'éditeur s'adresse à un lecteur et il espère bien que son livre va rencontrer son public. Alors, dans des phénomènes un peu inquiétants de ces dernières années, on a pu parler aussi de ce qui se passait avec l'édition universitaire et scientifique et universitaire aux États-Unis, académique, on dirait outre-Atlantique, où effectivement, dans la vie d'un chercheur ou d'un universitaire, il est devenu absolument indispensable de publier. C'est l'expression « il faut publish or perish », donc dans la vie d'un universitaire, puisqu'on compte le nombre d'articles publiés pour pouvoir vous proposer tel ou tel poste. Et du coup, cette réalité-là a un peu déformé la relation entre l'auteur et l'éditeur, parce que d'un coup, l'éditeur se retrouve en position, en fait, de bloquer la carrière de quelqu'un ou, au contraire, de lancer la carrière de quelqu'un. Et donc, cette relation a été un peu pervertie, c'est-à-dire que le jugement... Est-ce que ce que je lis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça va plaire à mon lecteur, c'est devenu un peu différent. Si je ne publie pas, je vais créer des obstacles énormes dans la carrière de cette personne. Et si je publie, je lui permets de parvenir à la prochaine étape.
Oui, parce que c'est une tendance qui a traversé l'Atlantique. Hein. On la connaît maintenant à l'université française.
Voilà. Et puis, publier
ou périr.
Voilà. Et puis, il faut pas rester dans le ciel des idées. Ça a évidemment un corollaire très économique et financier, qui sont que ces grandes presses universitaires, aux États-Unis notamment, elles sont en position de force. Et c'est aussi pour résister, je crois, à la concentration des moyens dans ces très, très grands groupes qui tenaient tenaient leurs auteurs captifs, pour ainsi dire, qu'il y a eu tout ce débat en France sur la science ouverte et sur le fait que des articles publiés par des chercheurs qui souvent sont déjà en fait payés pour le faire par leur université et que donc ces articles devraient être ouverts et lisibles par le public sans avoir à passer par un éditeur qui capterait une rente sur ces articles. Mais tous ces sujets sont éminemment complexes parce qu'on peut regretter que certains éditeurs soient dans des positions effectivement où leurs auteurs sont captifs et ils peuvent en extraire une rente. Du côté des petits éditeurs comme Esprit, où c'était le cas aussi de François Gez, enfin, sa maison d'édition était une grande maison, mais il pensait aussi aux petits éditeurs indépendants comme nous. Il s'agissait au contraire de faire valoir que l'éditeur joue vraiment un rôle dans la mise en forme d'un roman, d'un essai, d'un article. Et c'est sa mise en forme, là encore, à la fois immatériel, comment c'est structuré, plus long, plus court, et sa mise en forme matérielle, comment c'est mise en page, comment c'est mise en valeur, est-ce que c'est illustré ou pas, les choix de typographie, parce qu'il y a une réelle matérialité du livre.
Alors, parmi oui, chaque mois, on le constate avec notamment cette belle couverture d'Esprit. Et pour terminer, je voudrais préciser que j'ai appris qu'il y avait des influenceurs dans le domaine de la littérature.
Voilà, des booktubeurs, par exemple, qui publient des vidéos sur YouTube. Non, mais et c'est un secteur qui explose littéralement. Des influenceurs, souvent des gens très jeunes, qui aiment beaucoup lire et qui se mettent en scène dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre, avec les livres dont on voit qu'ils font vraiment partie de leur quotidien et qui partagent leurs coups de cœur avec une sincérité qu'on espère authentique. Et ça a un énorme succès et ça fait vendre beaucoup de livres, donc notamment dans les domaines de la littérature jeunesse, de la romance, certains genres bien identifiés. Et à tel point, en fait, ces influenceurs ont parfois un tel succès, tellement de gens qui les suivent, qu'ils ont un réel pouvoir de prescription et qu'on voit que les codes qu'ils utilisent dans cette communication très horizontale, très spontanée, qui mise sur une forme de relation d'intimité avec le livre d'abord, avec les gens qui les regardent ensuite. Donc tous ces codes de communication des influenceurs du livre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube sont repris en fait par les éditeurs eux-mêmes qui maintenant aussi font des petites vidéos promotionnelles comme qui ressemblent à ces nouveaux codes de communication.
On a commencé avec Bernard Pivot, on termine avec les booktubers, comme on les appelait.
Voilà, et pourquoi pas. Donc,
c'est une autre façon de promouvoir le livre.
C'est l'article donc, de Louis Viard dans notre dossier et qui est un peu sans illusion sur le fait que tout ça, ce sont quand même des nouvelles formes de publicité, mais avec parfois des lignes qui se brouillent un peu donc entre la critique, qui serait ici une critique non professionnelle, une critique très personnelle, et puis le marketing.
Merci Anne-Lorraine Bujon, grande lectrice s'il en est, directrice de la revue Esprit, donc dont le dossier du mois d'octobre s'intitule « La vie paradoxale du livre ». C'est dans le numéro 514 pour être précis. Et on se retrouve le mois prochain.
Avec grand plaisir.
Pour un autre dossier qui sera consacré, lui, à l'agriculture.
Au monde agricole.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées, bien sûr. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.